Ce matin, j'aimerais vous parler d'un éminent lépreux. La Bible relate l'histoire d'un chef militaire de la Syrie, un homme éminent, un homme haut placé dans la société syrienne, un homme de conditions aisées, on l'imagine avec son port altier. La Bible dit qu'il était fort et vaillant, qui est atteint soudainement par un drame. Le drame, c'est que la lèpre se déclare chez lui et il se met à être couvert de pustules, de plaques, et il comprend que désormais, il vivra comme un lépreux jusqu'à la fin de ses jours. Car à cette époque-là, il n'y avait pas de guérison pour les lépreux. Et la Bible nous raconte comment il va trouver la guérison après avoir compris d'abord un certain nombre de choses. Et si Dieu a voulu que l'histoire de ce Syrien, ce général syrien, soit dans la Bible, ce n'est pas juste pour nous raconter une histoire, c'est pour que nous, encore aujourd'hui, nous recevions des leçons de la part de Dieu, des explications, que l'on comprenne certaines choses. Et donc, je vous propose de vous mettre, pendant le temps de ce message, à la place de ce général syrien. Au début, c'est agréable de se mettre à sa place. Vous êtes quelqu'un de fort, de courageux, de puissant. Vous êtes le général en chef. Et vous avez gagné des batailles héroïques et mémorables, puisque à cette époque-là, l'empire assyrien et le roi d'Assyrie, avec un A au début, était en train de conquérir le monde, mais ce général avait réussi à le repousser et le petit pays de la Syrie avait échappé à cette conquête. Donc c'était un homme valeureux et qui sûrement avait des belles médailles en récompense de ses victoires. Tout allait bien pour lui. Une vie plus facile maintenant que la guerre était terminée, c'était la victoire. On avait ce goût de victoire dans la bouche et d'un seul coup, il est lépreux. Je voudrais lire donc dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, 2 rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Voilà le début du récit. On voit que la Bible est très concise, elle ne donne pas beaucoup de détails, sinon il faudrait pas un livre comme de 1000 pages, hein, il faudrait une bibliothèque. Mais il y a assez de détails pour qu'on comprenne et qu'on imagine les choses. Et Naaman va apprendre une première chose avec cette maladie, il apprend la fragilité de la vie. On a lu que c'était un homme fort et vaillant, oui, mais un jour la lèpre a été plus forte que lui. Le psaume 144 nous dit « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Au regard de l'histoire de l'humanité, notre petite vie à nous est tellement insignifiante. Si on vit même 90 ans, qu'est-ce que c'est 90 ans sur des milliers d'années? Et en plus, est-ce que nous avons marqué l'histoire de l'humanité? Non, nous n'allons pas marquer l'histoire de l'humanité. Notre vie est un souffle. C'est dur à accepter cette fragilité de la vie. Parce que quand on est jeune, par exemple, on se sent fort. Rien ne m'arrête. Et quand on est jeune, on ne pense surtout pas à la vieillesse. Hein? Lorsqu'on a 18 ans et que quelqu'un en a 22, on dit « Oh là là, il est vieux ». Et même on a tendance à mépriser les anciens. Oh, il va pas vite, dis donc, hein, marche un peu plus vite. On ne réalise pas que notre vie est courte, fragile. Et puis il y a la question de la mort, évidemment. Un jour nous allons mourir, nous allons tous mourir. On se sent bien aujourd'hui, mais demain on peut être diagnostiqué d'une maladie mortelle. Demain on peut être fauché par la mort. Personne ne peut dire, moi je maîtrise la mort et ça ne me fait pas peur. Nous sommes tous égaux, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit un homme, une femme, bien portant ou malade, nous sommes tous égaux devant la mort. La fragilité de la vie, et on a besoin de comprendre cela pour commencer la guérison et la purification. Tant qu'on pense que la vie est éternelle sur la terre, on n'est pas prêt. C'était lorsque des missionnaires sont venus en Amazonie. Ils ont défriché un coin, ils ont commencé à bâtir des maisons en dur, en bois, vraiment des maisons très solides. Et les gens du coin qui vivaient dans des huttes en paille, ils ont dit, mais ils sont fous ces occidentaux, enfin ces blancs, hein, ils les appelaient comme ça. Ils construisent des maisons comme s'ils allaient vivre éternellement sur la terre. Et c'est vrai que notre civilisation veut nous faire croire que nous sommes immortels. Mais nous allons mourir. La fragilité de la vie, et Naaman l'a appris avec cette maladie terrible. Et puis, Naaman va apprendre une deuxième chose, il va apprendre ce qu'est la condition humaine. La lèpre est une infection qui atteint la peau et les nerfs. C'est très contagieux. C'est un bacille qui infecte le corps. Et dans la Bible, la lèpre symbolise souvent l'impureté, le fait d'être impur spirituellement, moralement. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup question de la lèpre dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Jésus a guéri beaucoup de lépreux. Et quand il les guérissait, il disait « Sois pur ». Ça voulait dire « Sois pur » physiquement, hein, j'enlève toute ta maladie, toute ton infection. Mais il y avait aussi un sens spirituel. D'ailleurs, dans le livre du Lévitique, la lèpre, lorsqu'elle se déclarait, devait être présenté au sacrificateur. Le juif devait se présenter au sacrificateur en disant « Voilà, j'ai une tache. » Et on devait savoir si c'était la lèpre ou non. Et cette personne était déclarée impure. Il y avait même des quartiers des lépreux, puisque c'était une maladie qu'on savait contagieuse. Et donc, les lépreux étaient parqués dans des endroits. Et en Israël en particulier, lorsque un lépreux s'approchait des gens qui ne l'étaient pas, il devait crier « Impur, impur, je suis un impur. » Et Naaman, à travers cette maladie, découvre que l'être humain est profondément impur moralement. Le prophète Ésaïe a écrit au chapitre 64 « Nous sommes tous comme des impurs, toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Même nos bonnes actions, même notre bonne vie, les bonnes choses qu'on fait, aux yeux de Dieu, ça reste impur. La Bible ne dit pas que tout le monde est complètement pourri jusqu'à la moelle, mais la Bible dit que tout le monde est pécheur et que tout le monde est impur devant Dieu. Il suffit de s'arrêter un peu sur notre conscience. Écoutez juste quelques secondes votre conscience. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Est-ce qu'elle vous dit, tu sais que tu es quelqu'un de merveilleux, parfait, sans défaut ? Non, la conscience, elle nous dit les choses, comme les voyants sur les voitures. Hein. Quand vous avez le petit voyant qui clignote, c'est mauvais signe. Et la conscience clignote, elle dit, il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. Et le péché ne s'arrête pas à quelques petits mensonges qu'on a fait pendant l'enfance, et à la gourmandise quand on a mangé trop de glace. Dans la Bible, le péché, c'est l'offense envers Dieu. C'est d'avoir offensé notre Créateur. La Bible dit par exemple que ceux qui ne remercient pas le Créateur sont coupables de péché. Ceux qui sont dans la débauche sont coupables de péché. Ceux qui sont dans l'égoïsme sont coupables de péché. Parce qu'aujourd'hui, et l'Église est un peu responsable de ça. Elle a catégoriser les péchés, il fallait toujours que ce soit le meurtre ou l'adultère, mais l'orgueil est le péché des péchés. C'est la racine de tous les péchés. L'égoïsme, le fait de ne penser qu'à soi, l'égocentrisme, de mépriser les autres, de juger les autres, c'est un péché. Et si nous lisions ensemble les 10 commandements, en les lisant d'un cœur sincère, notre conscience, à chaque commandement, dirait même le commandement « Tu ne tueras point ». Je ne pense pas qu'il y ait un meurtrier parmi nous ce matin. Mais ne vous rassurez pas pour autant, ne dites pas « Ah, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, tout va bien pour moi. » Non, parce que Jésus a dit « Tu ne tueras point, mais moi je vous dis, celui qui insulte son frère a commis un péché de meurtre. » Le fait de mépriser son frère humain, de l'insulter, de dire à quelqu'un « Tu es un crétin, tu es stupide et je suis poli. » Vous voyez que Dieu n'a pas les mêmes critères que nous. Et évidemment, avec nos critères, on passe tous l'examen. Hein. Si je me fixe mes propres critères pour le jugement de Dieu, je passe. Sauf que les critères de Dieu ne sont pas les miens. Lorsque, après le baccalauréat, je me suis lancé dans une classe préparatoire aux écoles de commerce, je ne savais pas ce qui m'attendait. Donc, en terminale, si vous travaillez correctement, sans être trop doué, vous avez 12 facilement de moyenne. Bon, moi, je n'étais pas en terminale S, j'étais en économie, c'était plus facile, mais quand même, en travaillant un peu, ça va. Mais quand vous êtes en classe préparatoire, en travaillant beaucoup, vous avez des notes de 5 sur 20, 4 sur 20, et on était tous abasourdis, mais tous dans la classe, on était déprimés. On dit, mais c'est pas possible, on va tous rater, on est tous nuls, qu'est-ce qui se passe? Et les profs ont dû nous rassurer en disant, écoutez, on est à un autre niveau là, on est passé à autre chose, on n'est plus dans la terminale. Là, c'est sérieux, c'est les classes préparatoires, il y a un concours au bout. Et on a compris qu'il y avait un autre critère là, de jugement. Vous savez, vous avez votre propre critère de jugement. Vous dites, oh, je pense que le jour du jugement de Dieu, quand je vais mourir, je passerai. Même si je passe juste, je passerai. Mais la Bible dit, non, vous ne passerez pas si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, parce que nous avons péché, nous sommes impurs aux yeux de Dieu. Naaman va apprendre une autre chose. Il va apprendre l'humilité. Que fait-il quand il apprend qu'il y a un prophète en Israël qui pourrait le guérir? Il se précipite vers son roi et lui dit, « Oh roi, donne-moi une lettre pour que j'aille voir le roi d'Israël. » Mais la petite fille n'avait pas dit d'aller voir le roi d'Israël. Elle avait dit d'aller voir un prophète en Israël. Mais en tant que général, il s'est dit, « Il y a le protocole, on respecte le protocole, n'est-ce pas ?» Et donc, il est allé voir le roi et il arrive devant le roi et dit, voilà, il paraît qu'ici, je peux être guéri de ma lèpre. Quand le roi entend ça, le roi d'Israël, il déchire ses vêtements. Il dit, mais tu me prends pour qui? Tu crois que je suis Dieu? Moi, je guéris les gens comme ça? Et le roi d'Israël a même pensé que c'était un stratagème pour déclarer la guerre, demander une chose impossible. Et s'il ne répond pas favorablement, on vous attaque. C'était ça un petit peu le stratagème. Et donc, Naaman va devoir comprendre que ce n'est pas par un roi qui va être guéri. Ce n'est pas par les hommes qui va être guéri. Ce n'est pas quelqu'un d'important qui va le guérir. Et je vais lire toujours dans 2 Rois 5, les versets suivants, à partir du verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ?» Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. » Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et il partait avec fureur. Naaman va devoir apprendre l'humilité, il descend de son piédestal. Comment a-t-il appris qu'il pouvait être guéri? Par une petite fille d'Israël. Qui va invoquer le nom du Seigneur pour le guérir? Le roi d'Israël? Non. Un obscur prophète, parce que je peux vous dire, Élisée était un obscur prophète pour les Syriens et même pour certains Israélites. Comment la guérison va-t-elle avoir lieu? Y aura-t-il une cérémonie grandiose? Non. Le prophète ne le reçoit même pas en personne. Il ne prend même pas la peine d'aller lui serrer la main ou de s'incliner devant Naaman. Il lui envoie un messager. Va et trempe-toi dans le Jourdain. Pour Naaman, ça ou l'insulter, c'était pareil. Hein. Et quand on s'approche de Dieu, quand on cherche la purification de nos péchés, la pureté, on a besoin d'apprendre l'humilité, comme Naaman. À New York, il y avait cet avocat juif assez connu qui ne prenait que des gens riches et célèbres comme clients. Et ils avaient une femme de ménage qui était hispanique, pas très instruite, qui parlait mal le français, l'anglais, elle avait un accent un petit peu, mais elle connaissait le Seigneur Jésus. Et ce couple qui vivait de façon très mondaine, n'avait aucune foi, ils allaient à la synagogue pour les fêtes, etc., mais sans plus. Et un jour, cette femme de ménage a commencé à chanter des cantiques tout en faisant le ménage. Et l'épouse a dit, mais qu'est-ce que vous chantez? Ben, je chante des cantiques chrétiens. Chrétiens? Mais ah, les chrétiens chantent comme ça? Mais oui, oui, oui. Ah, mais vous savez, moi, je ne connais pas bien les chrétiens. Ils étaient plutôt nos ennemis. Elle dit, ah, mais moi, je ne suis pas votre ennemi, je vous aime beaucoup, au contraire, parce que Jésus est juif. Comment? Jésus était juif? Mais oui. Alors là, la dame, elle tombe un petit peu, elle ne connaissait pas tout ça. Et puis, tout ça l'a fait réfléchir. Et puis, un jour, leur fille les appelle au téléphone. Elle était à l'université dans un autre état. Et elle leur dit, « Papa, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. » Alors là, le père, il dit, « Ça y est, tu es enceinte. » « Non, c'est pas ça, papa, c'est pire. Tu es en prison. » « Non, papa, pire que ça. » « Pire qu'en prison ou enceinte ?» Tu t'es drogué, tu as fait une overdose, tu es handicapé, tu as eu un accident, tu es... Non, papa, pire que ça. Alors, le père dit, mais je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a de pire? Eh bien, j'ai mis ma foi en Jésus le Messie. Et là, le père ne parle plus et dit, tu as raison, c'est pire. Et il raccroche. Il est très fâché contre sa fille et contre ces chrétiens qui ont pris sa fille. Alors il va voir le rabbin, il dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sauve ma fille. Et le rabbin lui dit, écoutez, d'abord il faut lire un peu la Bible, mais moi je ne lis pas l'hébreu, mais il y a des Bibles en anglais, vous allez lire la Bible en anglais, et puis vous pourrez ensuite contrer, vous verrez bien que les chrétiens se trompent. Et donc il commence, lui et sa femme, à lire la Bible chacun de leur côté le soir, pour se préparer à la rencontre avec leur fille devenue chrétienne. Et puis l'épouse pose des questions à la femme de ménage, et la femme de ménage lui répond, par la Bible, des choses très sensées, très profondes. Il dit, mais dites donc, vous êtes femme de ménage, mais vous en savez des choses, vous. Parce que moi, nous, mon mari et moi, nous sommes des grands avocats, mais sur les choses spirituelles, on ne connaît rien. Et finalement, chacun de son côté, en lisant la Bible et en lisant le Nouveau Testament, va devenir chrétien. Il s'agit de Stan Telchin, hein, qui a raconté son histoire dans un livre. Et ils vont voir leur fille, et leur fille a très peur de les voir, et au moment où ils se rencontrent, des mois plus tard, le père et la mère disent, nous aussi, nous croyons en Jésus le Messie. Vous imaginez la retrouvaille avec leur fille. Mais la femme de ménage a joué un rôle très important. La petite fille juive a joué un rôle important. Hein, nous avons des jeunes filles aussi qui ont témoigné à leur prof de piano de leur foi. Et cette prof de piano a été touchée par l'Évangile. Elle est venue au Seigneur. Dieu aime les choses faibles et il a besoin de nous abaisser un peu dans notre orgueil. Et puis Naaman doit aller en Israël pour trouver la guérison. Il n'y avait pas de guérison possible en Syrie. Et il y a des gens, ça me fait penser aux gens qui disent, moi je suis né catholique et je resterai catholique. Je suis né musulman, je resterai musulman. Je suis né hindou, je suis né bouddhiste, je suis né protestant, je resterai jusqu'à la fin de mes jours. C'est même pas la peine de commencer à me parler. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Mais il faut réfléchir un petit peu. Est-ce que votre foi, votre religion, vous a apporté le pardon de tous vos péchés? Est-ce que votre foi vous a apporté la paix du cœur, l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que votre foi a changé votre vie? Est-ce que vous êtes délivré du mal? Sinon, peut-être il faut réfléchir à voir là où il y a la solution. La solution, je vous dis tout de suite, ce n'est pas dans les églises baptistes. Heureusement, parce qu'il y a des églises baptistes qui enseignent des choses où nous ne sommes pas d'accord du tout, que nous réprouvons. Non, la solution, elle est en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je pense à un Français moyen. Oui, non. Ne me dis pas que la solution, c'est Jésus. On a passé ça. Hein. C'était le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. D'accord, ne me parlez pas de la Bible, de ce vieux livre poussiéreux. On sait que c'est faux, on sait que c'est plein de légendes. Tout le monde l'a démontré maintenant. Jésus, on ne sait même pas s'il a existé. Ou s'il a existé, c'était un obscur rabbin juif des premiers siècles. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour moi aujourd'hui? Si vous pensez comme ça, vous avez besoin, comme Naaman, d'apprendre l'humilité. Et il y a quelqu'un qui a la solution pour ton péché. Quelqu'un qui a la solution pour le jugement de Dieu à venir. C'est Jésus-Christ. Naaman vivait dans un pays beaucoup plus évolué qu'Israël. Hein. Il avait ses dieux, il y avait plein de dieux en Syrie, plein de religions. Et il avait aussi des magnifiques fleuves réputés, hein, il les cite. Et là, on lui dit, mon ami, tu vas te purifier dans le Jourdain. Et le Jourdain était connu pour être un petit fleuve boueux, parce qu'il n'avait pas toujours assez d'eau. Moi, je vais aller me tremper dans un fleuve boueux en Israël. Mais autant aller dans mes beaux fleuves, hein, avec mon apanage, hein, avec tout le monde autour de moi. Il est arrivé chez le prophète sur son char, et, hein, avec tout son monde, avec tout son argent, et le prophète ne le reçoit même pas. Je ne veux pas de ton argent. Trempe-toi dans le Jourdain. Il y a certains intellectuels qui méprisent la Bible. Il y a certaines personnes qui n'imaginent pas que Jésus puisse les sauver. Et pourtant, la Bible enseigne qu'il est le chemin du salut. Je lis dans Acte 4, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes que Jésus, par lequel nous devions être sauvés. » Et Jésus lui-même a dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Le petit chemin, la petite porte, on dit, oh là là, non, c'est méprisable. Moi, je veux une grande porte, un grand chemin. Je veux une église, je veux pas me convertir dans une église baptiste, moi. Moi, je veux aller dans une cathédrale. Je veux qu'il y ait un évêque qui soit là. Je veux une cérémonie. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai fait ma première communion catholique à Notre-Dame de Paris, en présence de l'archevêque de Paris. Et le lendemain de ma première communion, je devenais officiellement athée. J'avais fait cette communion un peu pour faire plaisir à tout le monde. Et devant le faste et l'hypocrisie de mon propre cœur, hein, j'ai dit, pourquoi tu continues à dire que tu es catholique? Tu n'es pas catholique, tu es athée. Et il a fallu que le Seigneur me trouve autrement, par la Bible justement, pour que je devienne vraiment chrétien. Et Naaman va apprendre autre chose que l'humilité, il va apprendre la foi. Il se fâche. Et parfois les gens, quand ils entendent l'évangile, ça les fâche. Parce que l'évangile vous reprend, dit « Vous êtes pécheur, vous êtes coupable. » Mais non !» Et l'évangile dit « C'est par Jésus-Christ seul. » Mais pourquoi? Et pourquoi ce ne serait pas aussi par Bouddha, par la Vierge Marie? Pourquoi Jésus seul? Ça les fâche. Et Naaman était fâché, mais la vérité, c'est la vérité. C'est qu'il n'y a qu'un seul qui soit mort pour nos péchés sur la terre, c'est Jésus-Christ. La Vierge Marie n'est pas morte pour nos péchés. et elle ne peut pas vous sauver. Bouddha n'est pas mort pour vos péchés, il ne peut pas vous sauver. Mahomet n'est pas mort pour vos péchés, il ne peut pas vous sauver. Il y a un seul qui était prophétisé depuis des siècles dans les Écritures par des prophètes, le Messie, et c'est Jésus qui a accompli toutes ces prophéties. C'est lui le seul sauveur, même si ça vous fâche. Et il a dû faire confiance à ne plus compter sur les hommes. Pourquoi le prophète n'est-il pas allé le voir? Je pense qu'il voulait que Naaman comprenne que ce n'était pas le prophète qui allait le guérir, que c'était Dieu. Il voulait qu'il ait foi en Dieu, pas en un homme. Et Naaman est reparti fâché sur son char. Bon, c'est pas la peine, moi, en grommelant, mais toujours avec sa lèpre. Et finalement, il a dû commencer à faire confiance à la parole de Dieu. La foi n'est pas un sentiment mystique qu'on ressent comme tomber amoureux. Hein? La foi ne vous tombe pas dessus un beau matin comme ça, plouf, non. La foi, c'est faire confiance aux promesses de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Christ. C'est quand on entend la Bible et la parole de Christ qu'on peut croire, saisir cette parole. C'est ça la foi. Vous avez la foi, vous pouvez avoir la foi qui sauve. Vous pouvez être sauvé, purifié ce matin. Mais il faut faire comme Naaman. À un moment, il faut ravaler son orgueil. Et c'est un serviteur, encore une fois, qui va avoir la parole de sagesse à Naaman. Et je vais lire verset 13 de 2 Rois 5. Ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman découvre la grâce. Si Élisée était sorti en grande pompe, avait agité les mains comme l'imaginait Naaman, hein, avec sa robe de prêtre ou je ne sais pas quoi, et qu'il avait dit « Naaman, pour que tu sois guéri, tu dois boire de l'urine de chameau tous les jours de ta vie. » C'est pas bon l'urine de chameau. Je suis sûr qu'il l'aurait fait. Je suis certain qu'il aurait dit « Ah, ça doit être vrai, ça doit être... » Parce que c'est extraordinaire. Hein, bon. Ou s'il avait dit, tu vas remonter hein, le fleuve du Jourdain à la nage. Il l'aurait fait. Il était prêt à tout Naaman. Il était un homme vaillant. Mais il a dû comprendre que le pardon, la purification, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos œuvres. C'est par pure grâce. C'est un cadeau de Dieu. Il a dû comprendre qu'il fallait juste se tremper. Pas difficile de se tremper, mais il fallait obéir. Pour être sauvé, il faut obéir à Dieu, à sa parole, à son commandement. Le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si vous obéissez à cette parole, vous serez sauvé. Mais si vous dites, non, mais moi, j'ai ma façon. Moi, pour être sauvé, je pense que je dois d'abord lire la Bible toute entière, 3 fois. Ensuite, je dois faire un pèlerinage à Jérusalem parce que c'est là que tout s'est passé. Et après, je dois un peu arranger mes affaires parce que là, je suis un peu dans le business et vous voyez, bon. Mais quand je serai à la retraite et que j'aurai tout réglé, que j'aurai lu la Bible et tout ça, là, je pourrai être sauvé. Eh bien, ça, c'est votre plan à vous, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus, de se tremper 7 fois dans le Jourdain boueux. Et un peu comme avec Jéricho, il a dû se tremper 1 fois, rien. 2 fois, rien. 6e fois, rien. Là, il faut la foi. Hein. Il faut croire. Et la septième fois, il est sorti pur. Miraculeusement pur. Sa chair était comme un petit enfant. Chair de bébé. Ce message s'adresse à nous, mes amis. Votre âme est-elle impure? Est-elle chargée de péché, de culpabilité? Ne cherchez pas midi à 14 heures. Le Seigneur Jésus est le seul qui puisse vous purifier parce qu'il est mort sur cette croix pour ça. Son sang a coulé pour vous laver. Il n'y a rien d'autre que le sang de Christ qui puisse purifier notre cœur, notre conscience. Vous pouvez vous laver tous les matins, vous pouvez prendre du savon, tout ce que vous voulez. Vous pouvez manger bio, être zen. Ça ne vous purifiera pas. Mettre de l'encens chez vous, non. Il n'y a que la foi au sang de Christ qui sauve. Voilà les leçons que Naaman a apprises et qu'il nous apprend à nous. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui dit « Oui, je suis comme Naaman. J'ai besoin d'apprendre l'humilité, la fragilité de la vie. J'ai besoin d'apprendre la foi, j'ai besoin d'apprendre la grâce. » Ne regardez pas à moi qui vous ai parlé, ne regardez pas aux chrétiens qui sont ici, regardez à Jésus-Christ. Regardez même à la croix, là où Jésus fut cloué pour vous, par amour pour vous. On va s'incliner dans la prière pour terminer. Et comme l'heure est grave, je me permets de lancer un appel ce matin. L'heure est grave parce que notre vie est courte. Elle est comme un souffle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'est pas réconcilié avec Dieu? Vous n'êtes pas prêt à affronter le jugement trois fois saint de Dieu. Vous n'avez pas cru en Jésus-Christ comme votre Sauveur. Vous avez peut-être une religion ou des croyances, mais vous n'avez pas cette foi qui croit Dieu sur parole. Est-ce que ce matin, vous voulez ouvrir votre cœur? Le Seigneur vous a parlé. C'est le moment de lui répondre. Il vous entend même si vous priez dans votre cœur silencieusement. Car Dieu sonde votre cœur. Dieu vous aime. Il vous connaît mieux que vous-même. Et il vous appelle ce matin. Viens à mon Fils. Viens à Jésus-Christ. Repens-toi de ton péché, de tes fautes. Et demande pardon. Seigneur, veuille me pardonner tous mes péchés à cause de ton sacrifice pour moi. Seigneur, veuille me purifier totalement. Que ma conscience redevienne comme celle d'un bébé. Seigneur, veuille me laver du mal qui est attaché à moi. Enlève ma culpabilité, Seigneur, ce poids qui me pèse. Je le dépose au pied de la croix. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que vous le croyez? Si c'est le cas, eh bien, croyez de tout cœur et dites merci, Seigneur, de l'avoir fait. Merci de m'avoir pardonné. Il ne va rien se passer d'extraordinaire sur le moment. Vous n'aurez pas de lumière, vous n'aurez pas de frisson. Mais le pardon de Dieu est aussi vrai que je suis là devant vous, parce qu'il est dans la Bible, il est promis par Dieu lui-même. Père, nous adressons à toi parce que nous sommes vraiment pécheurs. Et sans toi, nous n'aurions jamais pu être sauvés. Mais je te remercie parce que tu es descendu vers nous, tu nous as tendu la main et tu nous as sortis de la boue où nous étions. Merci Seigneur de ta grâce, que c'est un cadeau, ça ne se mérite pas. C'est une faveur que tu nous fais de nous sauver. Merci de cet amour que tu as pour tous les pécheurs du monde. Et je prie Seigneur que tu sauves plusieurs ce matin ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va chanter un cantique.